Amen. Et gloire au Seigneur. Nous allons. Que Dieu soit béni. Nous allons revenir sur notre thème, une vie de gloire en gloire. Et aujourd'hui, nous allons essayer de terminer cette partie qui constitue l'introduction à ce message. Comme vous pouvez vous rendre compte, eh bien, il y a tant de choses à dire, car le genre de vie auquel le Seigneur nous appelle, c'est une vie qui va de gloire en gloire, une vie qui passe absolument par le transvasement, le fait d'être vidé d'un vase dans un autre, d'un récipient dans un autre, alors que nous marchons avec le Seigneur. Nous reviendrons avec des cas concrets de quelques héros de la foi qui ont connu ce processus de transvasement, des hommes de la même nature que vous et moi, mais qui ayant accepté de passer par ce processus, cette opération extraordinaire que les transvasements ont eu à mener une vie qui a glorifié le Seigneur, mais aussi ils ont pu être de véritables bénédictions pour l'humanité. Aujourd'hui encore, nous pouvons parler d'eux parce qu'ils ont marqué l'histoire biblique, l'histoire de la révélation par leur vie, une vie brisée, une vie transvasée, une vie métamorphosée et transfigurée. Nous allons relire Jérémie 18, qui est donc notre texte de base, et voir, et aller une fois de plus à la rencontre de Moab, voir quel était le problème de Moab, cette fameuse lie sur laquelle Moab reposait tranquillement. Nous avons épinglé quelques éléments aujourd'hui, nous allons continuer. Jérémie 48, versets 11 à 13, et puis 29 à 30, et puis verset 42, et puis verset 47, et enfin, nous terminerons notre lecture par 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous lisons donc Jérémie 48, à partir du verset 11. La Bible nous dit « Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre, et n'est pas allé en captivité ou en déportation. Aussi, je pourrais ajouter, hélas, son goût est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi, voici que le jour vienne, oracle de l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront, ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. » Alors le problème de Moab, les éléments qui constituaient la lie sur laquelle il reposait, nous en avons déjà parlé la fois dernière, nous lisons donc verset 29, verset 30, où il nous est dit « Nous avons appris l'orgueil de Moab, un orgueil extrême, son arrogance, son orgueil, sa fierté et son cœur altier ou son cœur hautain. Je connais, oracle de l'Éternel, son courroux, mais il est vain, ses prétentions et ses œuvres vaines. » Verset 42, « Moab sera détruit, il ne sera plus un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. » Et enfin le verset 47, « Mais, ça se termine sur une note positive, je ferai revenir les captifs de Moab, à la fin des temps, oracle de l'Éternel. » Tel est donc le jugement prononcé sur Moab. Moab, qui reposait sur sa lie. Et nous avons examiné très brièvement, la fois dernière, les éléments constitutifs de cette lie, de ce qui constituait le matelas sur lequel, eh bien, reposait Moab. Nous avons essayé de voir les différents reproches que le Seigneur a fait à Moab. Et nous avons vu d'abord que Moab avait fini par mettre toute sa sécurité sur ses œuvres, sur ses trésors. Il en avait, il avait des œuvres, il avait des villes fortifiées qui du reste sont énumérées dans le passage. Et donc, humainement parlant, il avait de quoi être fier. Il avait de quoi s'enorgueillir, il avait de quoi dormir tranquillement, reposer sur sa lie. Et pire, Il s'était même tourné vers le dieu Chemosh, qui était la divinité principale, et donc des Moabites. Voilà donc un des premiers reproches. Voilà donc les premiers éléments sur lesquels Moab se reposait, ce qui constituait l'Ali. Ce n'était plus le Créateur qui était, si vous voulez, le matelas sur lequel il était appelé à se reposer. Ce n'était plus le Créateur en qui il aurait dû avoir confiance, il aurait dû chercher la sécurité, la vraie. Ce n'est plus l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui il devait se tourner et puis se mettre à sa suite. Non, il s'est tourné vers l'idolâtrie, il a posé sa sécurité sur ses œuvres, sur ses richesses, sur ses trésors. Vous voyez, il a même cherché à être grand aux yeux de Dieu. Chose terrible, faute gravissime, terrible folie qui va lui coûter très très cher. Tout cela, mes amis, l'a amené à avoir un cœur altier, à avoir un cœur hautain. Qu'avait-il envié aux autres? Pas du tout, même pas Israël. Lui, il avait tout, apparemment. L'orgueil de Moab. Et Jérémie est très éloquent. Lorsqu'il invoque, mes amis, l'orgueil de Moab, il dit un orgueil extrême, son arrogance. Son orgueil, il répète ça à quelques reprises, sa fierté, sa suffisance. Voyez-vous, bref, l'outrance caractérisait la vie de Moab. L'outrance en tout. Voyez, l'orgueil, la fierté. C'est ce qui arrive lorsqu'à un certain moment de notre vie, nous commençons, mes amis, à nous reposer sur nos réussites, sur nos succès. Lorsque nous pensons qu'enfin nous sommes arrivés, nous nous sommes lancés dans les affaires, nous nous sommes lancés dans une carrière, et puis par la grâce de Dieu, nous sommes partis de promotion en promotion, et nous avions visé très haut, nous cherchons absolument à être un jour la tête de l'entreprise ou de la compagnie, et puis voilà qu'un jour, par un concours des circonstances, nous arrivons. Et si on ne fait pas très attention lorsqu'on arrive au sommet, lorsqu'on arrive au pinacle, si on ne fait pas très attention, c'est qu'on risque, mes amis, de croire qu'enfin on est arrivé, de considérer la saison dans laquelle on se trouve, une saison prospère, marquée par le succès, par la réussite, par toutes sortes de victoires, considérer cela comme étant la destination finale. Et puis finir par nous reposer sur ce qui désormais constitue notre sécurité. Nous avons des moyens financiers, des moyens matériels, nous avons eu un parcours élogieux, un parcours resplendissant, merveilleux dans notre carrière professionnelle, et finalement on arrive au sommet, c'est le sommet des sommets, et puis voilà. Et dans cet orgueil, dans cette arrogance, Moab a commencé à mépriser les autres. Mes amis, l'orgueil, le premier péché, c'est parce que je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, puisque ce qui a amené Satan, Lucifer, à être rejeté, à tomber sous la colère du Seigneur et son jugement, sa condamnation, c'est bien l'orgueil. À un moment, il a voulu être comme Dieu. Vous voyez, tout ce qui nous amène à nous appuyer sur nous-mêmes, à chercher notre agrément dans ces choses-là, tout ce qui nous amène, mes amis, qui constitue notre sécurité, dès lors que nous sommes des enfants de Dieu, tout cela, si nous ne faisons pas très attention, risque de terminer, de finir comme des idoles. Qu'as-tu, nous dit la Bible, que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que nous avons est le produit de la grâce de Dieu. Nous sommes sortis du sein de nos mères. Chacun de nous n'est pas né avec une cuillère en or dans sa bouche. Chacun de nous n'est pas né avec des paillettes. Pas du tout. Nus, nous sommes sortis du sein de nos mères. Même ceux qui appartiennent à des familles royales, ils sont sortis nus du sein de leur mère. Et puis un jour, vu les circonstances, étant donné son origine royale ou autre, eh bien on arrive un jour à monter sur le trône. Mais cela n'apporte rien quant à notre valeur intrinsèque. Notre valeur, nous l'avons, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit la condition intellectuelle, nous sommes des êtres humains faits à l'image du Créateur. Gloire à Dieu. Et ceci, mes amis, fait de nous des êtres singuliers. Oui, Moab s'est élevé contre l'Éternel, un autre élément qui constituait le matelas sur lequel il reposait. Il s'est élevé contre l'Éternel, au verset 26-42. Littéralement, il est dit, il a fait grand contre l'Éternel. Voyez-vous, c'est comme un peu cette fable du crapaud qui cherchait à être aussi gros que la vache. Hein. Vous connaissez le résultat. Eh bien, il a cru être puissant. Il a cru à cause de ses richesses, à cause de sa position parmi les nations, à cause des victoires militaires par rapport à certains peuples. Il a cru qu'il pouvait défier le Dieu d'Israël. Quelle erreur terrible! Et nous connaissons le verdict. Dieu va faire boire à Moab le calice jusqu'à la lie. Il va, mes amis, lui faire connaître, lui faire expérimenter les pires humiliations, lui faire endurer des choses terribles. Il va être vidé, il va être amené en exil, il va être déraciné, et ça sera fini. Mais à la fin, dans la suite de temps, le Seigneur dit, je ramènerai les captifs de Moab. Par rapport à cette situation de Moab, quelle a été la solution que le Seigneur a préconisée? Eh bien, le verset 12, nous l'avons lu. C'est pourquoi, voici que le jour vienne, oracle du Seigneur ou de l'Éternel, où j'enverrai à Moab des gens, ou des trans, littéralement, je lui enverrai des transvaseurs qui les transvaseront, c'est-à-dire qui les videront d'un vase dans un autre, qui videront ses respirants, et puis il ajoute, ces transvaseurs feront éclater ces outres. Donc la solution pour Moab était le transvasement, le fait d'être vidé d'un vase dans un autre, et tout cela par l'exil. L'exil qui est un état terrible, un état angoissant. Voyez, l'exil, c'est la situation de quelqu'un qui est expulsé de son pays, qui est donc amené à vivre hors de sa patrie, qui est donc appelé à vivre hors de sa culture, vous voyez? Et cela implique donc un éloignement de son pays, avec des conséquences terribles. Le stress, quelquefois la crise d'identité, des angoisses, des souffrances, parce qu'on laisse tout. C'est comme un arbre qu'on déracine, mes amis. L'exil a toujours été pénible. Je parle de gens qui ont été forcés. Je ne parle pas de tous ceux qui, pour aller avoir un peu le beurre de l'autre côté, manger les frites, eh bien, ils inventent des histoires comme quoi ils avaient giflé le président ici, ils avaient l'insulté, ils avaient fait ceci, et par après, on leur donne l'exil. Moi, je parle de ceux qui étaient là, qui avait une vie avec des racines et qui un jour, pour une raison ou pour une autre, à cause de la guerre, à cause du tribalisme, à cause de l'ethnisme, à cause de la haine de telle ou telle autre hostilité, ont été amenés à partir. Eh bien, pour cela, ça a été un véritable déracinement avec des souffrances psychologiques terribles, des humiliations. Alors, pour cela, Moab devait passer par toutes sortes d'épreuves. Il devait connaître l'humiliation, il devait connaître le brisement en expérimentant cette vie d'exilé. Car tout laisser, non pas par choix, non pas volontairement, mais parce que les transvaseurs, les dévastateurs sont venus, ils vous ont pris, ils ont détruit vos biens, et puis ils vous ont déportés, ils vous ont amené en captivité, Eh bien, Moab devait passer par là. Mais comme Dieu est bon, le verset 47, le Seigneur promet qu'il allait faire revenir les captifs de Moab à la fin de temps. Mes amis, nous voyons donc à travers la vie de Moab la nécessité, l'importance pour nous, enfants de Dieu, de connaître cette expérience du transvasement, d'être vidé dans un vase, d'un vase et dans un autre, et tout cela dans le but de nous débarrasser de la lie, mes amis, la lie qu'il y a dans notre vie, cette lie qui altère à la fois notre goût et notre odeur, c'est-à-dire notre personnalité, notre caractère. Eh bien, pour que cette lie, eh bien, disparaisse, elle ne peut pas disparaître comme ça en un jour, en deux ans. Non, c'est une opération qui va durer toute notre vie. Pour que cette lie disparaisse ou continue à disparaître, il faut donc cette opération, il faut donc ce processus de transvasement, d'être vidé dans un vase, d'un vase et dans un autre. Voyez-vous? Et Moab a connu cela. Et vous et moi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas mener une vie qui glorifie le Seigneur si nous ne passons pas de vase en vase, de brisement en brisement. Car être déraciné implique donc un brisement, c'est-à-dire on laisse tout. On avait un certain rang social, on avait des biens, on était respecté, on avait sa famille, on vivait bien en intelligence avec sa société. Et puis voilà, tout d'un coup, le transvaseur passe par là, il vous arrache, il vous déracine, il vous brise, il dévaste tout ce que vous avez pour vous déporter, vous amener ailleurs. Et quand vous arrivez de l'autre côté, dans le deuxième vase, eh bien, vous ne serez plus, vous n'êtes plus le même. Voyez-vous, vous perdez quelque chose. Oui, il faut que quelque chose parte de notre vie. Le moi doit être brisé. Nous ne pouvons pas avancer dans la vie chrétienne, mes amis, si nous ne sommes pas transvasés d'un vase dans un autre. Vous savez tous la différence qu'il y a entre une fleur en pot dans une maison où règne une bonne température, une fleur en pot dont on prend soin. Mon épouse aime beaucoup les fleurs, où qu'on aille, elle peut s'arrêter. Nous étions en Afrique du Sud, oh là 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 là. À un moment, je commençais à m'ennuyer. On se retrouvait, on allait regarder ceci, elle s'arrêtait, elle tournait autour et tout ça. Et croyez-moi, hein, je pensais que c'était fini. Ah non, hein. Quand on est revenu, hein, madame avait quelques fleurs qu'elle a fini par planter à la maison. Donc, il y a une différence fondamentale entre une fleur en pot dans une maison où règne une bonne température et une plante d'extérieur. La fleur meurt, mes amis, la fleur dont on prend soin là, à l'intérieur de la maison, meurt dès que l'adversité la frappe. Alors que la plante d'extérieur, ayant été exposée à toutes sortes d'intempéries, au froid, à la chaleur, à la pluie, au vent, eh bien, à cause de toutes ces adversités, la plante d'extérieur a fini par développer une certaine résilience, une certaine résistance, une certaine force, alléluia. C'est ainsi que cette plante, qu'il pleuve, qu'il neige, même lorsque vous avez l'impression que cette fois-ci c'est fini, je n'ai pas besoin de produits pour la détruire, eh bien au bout de quelques mois, hop, ça repousse. La plante extérieure résiste mieux aux adversités, parce qu'elle en a été exposée. Voyez-vous, elle a développé une certaine immunité. C'est d'ailleurs le principe du vaccin. Nous devons, mes amis, subir de changements. Nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons être aujourd'hui plus que ce que nous étions, du moins dans le bien, ce que nous étions il y a 6 mois, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Nous devons avoir une vie qui monte et monte encore. Une vie de gloire en gloire. Alléluia. Donc, d'une vie de changement en changement. Il faut que nous ressemblions à Christ. Tel est donc, mes amis, le but ultime que Dieu poursuit dans notre vie. Et pour atteindre ce but, de nous faire ressembler tous azimuts au Christ qui reste le modèle parfait, eh bien Dieu va utiliser l'épreuve. Dieu va utiliser les problèmes, la souffrance, l'adversité. Oh, alléluia. Oui, les changements sont souvent très difficiles, c'est vrai. Quand on a été moulé d'une certaine manière, quand on a toujours vécu d'une certaine manière, quand on a toujours regardé dans une seule direction, et avec le temps on oublie qu'il y a 4 points cardinaux, pour vous il y a toujours le nord qui compte, c'est toujours le nord, c'est toujours le nord. Le jour où quelqu'un vient à un moment de ta vie en te disant « oui, il y a le nord, mais attention, il y a aussi l'est, il y a l'ouest et il y a le sud », et là, si vous ne faites pas très attention, vous allez être bousculé dans vos convictions. Parce que vous avez toujours été habitué à voir votre boussole tourner vers le nord. Et là, vous apprenez, ah non, il y a 4 points cardinaux. Il n'y a pas que le nord. Voyez-vous? Vous pouvez aussi aller vers le sud. Et au sud, il y a des réalités que vous ne trouverez jamais vers le nord. Vous apprenez aussi que vous pouvez aller à l'est. Et là, vous apprendrez qu'effectivement, le soleil ne s'élève pas au nord. Le soleil se lève à l'est. Vous voyez? Et là, vous allez découvrir les bénédictions de l'Orient ou d'Orient. Et puis, vous apprenez qu'il y a aussi l'ouest. Ah, l'ouest. Ah bon? Il y a encore des choses à l'ouest. Mais oui, il y a les océans. Il n'y a pas que l'est. Goma, Bukavu, sud-est, le Katanga. Mais il y a aussi l'ouest. Ah bon? Ça existe? Ah ben oui, hein? On a même l'océan. Ah, au Congo? Moi, je ne savais pas, mais comment voulez-vous savoir si votre boussole ne vous indique l'est? Donc, vous voyez, dans chaque direction, à chaque étape de notre vie, il y a de nouvelles expériences à faire. Et ces expériences ont pour objectif ultime de contribuer à notre transformation, à notre métamorphose, pour nous faire ressembler au Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, on n'a pas lu, mais vous connaissez déjà ce verset, vous devriez même l'apprendre par cœur, nous dit, nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, eh bien les résultats, les conséquences formidables, c'est que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est ça, mes amis. C'est ça le but du transvasement. Quand une vie est versée régulièrement d'un vase dans un autre, une vie connaît régulièrement ce processus de transvasement qui consiste à nous amener d'une saison à l'autre, qui consiste à nous amener d'une rive à l'autre rive, d'un rivage à l'autre. Quand on passe par ce processus, mes amis, alors on peut expérimenter le changement. Alors on peut être débarrassé au fur et à mesure qu'on avance et qu'on passe par le transvasement, on peut être débarrassé de plus en plus de la lie sur laquelle nous reposons, que ce soit l'orgueil. Voyez-vous? Il faut que notre cocotier soit secoué. Voyez-vous? Quand nous sommes débarrassés de la lie, quand nous allons d'un vase à un autre, eh bien notre vie est fortifiée, alléluia. Car nous affrontons, nous rencontrons l'opposition, nous rencontrons la résistance, et cela contribue, mes amis, à notre force. Que Dieu soit béni. Vous le savez tous, on ne peut mieux parler que de soi-même. Moi, j'ai vu ce principe à l'œuvre dans ma propre vie, et je le vois encore aujourd'hui. Ce principe de transvasement, je le vois dans ma vie au travers de toutes sortes de luttes, au travers de toutes sortes de combats, des épreuves que j'ai connues dans ma vie, dans le cadre de mon ministère. Combien de fois j'ai connu l'humiliation, le manque de respect des jeunes gens, des jeunes pasteurs, qui me parlaient comme si nous avions le même âge, sans tenir compte de l'âge, parce qu'ils étaient aussi dans le ministère, etc. Le rejet, j'en ai connu, hein. J'en ai touché un mot la fois dernière. Le racisme, j'ai connu, j'étais dans une structure avec des pasteurs européens, et ils m'ont montré clairement que je n'étais pas comme eux. Voilà. J'ai eu à les interpeller, mais grâce soit rendue à Dieu de ces quelques années plus tard, ils avaient fini par me demander pardon. Voyez-vous, le racisme, les humiliations, voyez, par des circonstances. Je me suis retrouvé en Europe, à un moment, donc, je dirigeais l'église, je n'avais pas de salaire, rien du tout, voyez-vous, et puis en même temps, mon épouse accouche, et puis après l'accouchement, l'enfant se trouve au service de néonatologie, que faire? Pas d'assurance, rien du tout. Je me suis retrouvé à monologuer dans les rues de Bruxelles en parlant moi-même. Hein. Seigneur, c'est toi qui m'as amené. S'il m'arrive quelque chose, tout le monde saura que c'est toi. Quelqu'un m'aurait croisé, il se serait dit, oh là là, le pasteur Bondo est en train de délirer. Eh oui, eh oui. L'humiliation. À un moment où vous n'avez plus rien. Plus rien, mes amis. Voyez. Si vous n'avez pas de salaire, vous n'avez rien, vous êtes comme ça, vous vivez, c'est comme Israël, hein, au désert. Il n'y avait pas moyen de cultiver, il n'y avait pas moyen d'arroser tout ce que vous voulez. Israël devait se contenter de la manne qui tombait. Et ce n'est pas Israël qui décidait à quel moment la manne devait tomber. Oui ou non? Ah! Je me suis retrouvé avec deux ou trois pantalons à force de le mettre, tout ça, les frottements. Ça, je vous l'ai dit, hein. Parce qu'aujourd'hui, quand vous nous voyez, je suis bien habillé, vous nous enviez, vous ne savez pas d'où nous venons. Vous vous trouvez quelque part, quand vous êtes ces deux gens, la première chose, vous devez faire ça et puis vous asseyez. Voyez. J'ai connu tout ça. Des humiliations, la calomnie, des privations, des insomnies, parce que des combats, des pressions venaient de toutes parts, des larmes. Mais grâce soit rendue à Dieu. C'est que j'avance, et j'avance encore. Je ne cherche pas ce que vous vous apitoyez sur moi, sur mon sort, loin s'en faut. Vous voyez, en réalité, je vous dirais que je suis même reconnaissant au Seigneur de m'avoir fait passer par toutes ces expériences, de m'avoir vidé d'un vase à un autre. Oh, je me souviens avant ma conversion, quand je regardais à ma naissance, à ma conception, ma naissance, à toute cette vie que je connus quand j'étais encore ado, on n'avait rien, j'allais à l'école pieds nus et tout ça. Comme j'ai déjà dit, j'ai déjà eu à vous le dire, je n'ai jamais connu des cartables. Hein. D'abord, je n'ai jamais fait l'école maternelle. À l'école primaire, j'avais un petit sac en plastique, vous voyez, et c'est là que je mettais mes petits objets scolaires et tout ça. Vous voyez, je devais vendre des petits trucs au stade de la Kikula, pour ceux qui viennent de Châteauville ou de Licassie. Voilà, donc j'allais de chewing-gum avec deux ou trois copains, et avec ça, pendant les vacances, j'allais au marché, vers les vêtements de seconde main, de la friperie, je prenais un petit short, un petit t-shirt, ah, j'étais tout content. Vous voyez, pour moi, ce que j'avais gagné valait plus que les millions des millionnaires. Parce que je l'avais gagné difficilement. Vous voyez. Donc, quelquefois, vous passiez au stade, quelqu'un venait, tiens, vieux, où est-ce que va là-bas. Ben, tu allais faire quoi? Bon, tu continuais. Voyez-vous. Et je rends grâce à Dieu. À un moment, je me suis dit, Seigneur, pourquoi as-tu permis que je naisse dans ces conditions? J'en ai voulu à ma mère, j'ai dit, mais pourquoi elle n'avait pas voulu que mon père me prenne et m'amène avec lui en Europe ou je ne sais pas où.
Pourquoi, Seigneur, pourquoi?
Et je me souviens dans ma jeunesse, comme le diable sait bien faire son travail, un collègue m'avait regardé et dit, oh là là, tu vois comme tu es agité, tu aimes beaucoup les plaisirs de la chair, les plaisirs du monde. Ce n'est pas de ta faute, tu es immatriculé en enfer. Quel encouragement quand même. Et moi, ça me confortait, j'ai dit, bon, ça y est. Donc il y a des gens que Dieu aime, dont il a voulu leur existence sur cette terre, et puis il y en a d'autres, depuis leur conception, leur nom, leur adresse, se trouvent en enfer. Et je suis de ceux-là. Heureusement, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Un jour, il m'a attiré. Il m'a donné tellement de l'amour que j'en ai pour donner à tout le monde. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et donc, ce sont ces épreuves, mes amis, par lesquelles je suis passé, qui m'ont fait grandir et qui me font ressembler davantage à une plante d'extérieur, une plante robuste plutôt qu'à une délicatesse fleur en serre. Ou garder quelque part dans un pot, dans une maison bien chauffée ou bien climatisée. Mes amis, pour croître, pour grandir en Christ, nous avons besoin d'être transvasés, versés d'un vase dans un autre. Pour croître, pour être une vraie bénédiction pour les autres, pour être employé efficacement par le Seigneur, eh bien, mon frère, ma sœur, vous devez être versé d'un vase dans un autre, et ce, toute votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les épreuves ne s'arrêteront jamais tant que vous serez ici sur terre. Et un des bienfaits des épreuves, pour ceux qui les prennent avec philosophie, pour ceux qui comprennent que cela fait partie du plan de Dieu, c'est que ça nous rappelle que nous sommes des étrangers ici-bas. Nous sommes des pèlerins en route vers notre vraie patrie. Que ça serait une folie que de vouloir s'asseoir et de se dire, voilà, c'est chez moi. Non. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes en route. Et le transvasement nous le rappelle. Que toute notre vie doit dépendre entièrement du Seigneur. À chaque fois que nous avons tendance à nous appuyer sur nous-mêmes, à dormir sur nos lauriers, à placer notre sécurité dans ce que le monde offre, eh bien le Seigneur nous dit, voilà, c'est le moment, tu dois être transvasé. Parce que si nous laissons ainsi, eh bien, on finirait par être détruits. Car ce que le diable cherche, c'est de créer une sorte de pesanteur au travers de tous les biens que nous avons pour nous tirer vers le bas. Mais pour se débarrasser de cette pesanteur, il faut que la main du Seigneur intervienne. Il faut que les épreuves viennent. Et quand les épreuves viennent, ça veut dire quoi? Eh bien, quand l'ouragan souffle, il emporte ce sur quoi nous nous appuyons. Il emporte notre position sociale. Nous pensions que nous étions devenus quelque chose à cause de telles responsabilités, à cause de nos comptes en banque, à cause de nos réussites. Et le Seigneur dit quoi? Maintenant tu te reposes sur cette ligne, mais c'est pour ta destruction. Parce que je t'aime, parce que le plan que je poursuis, c'est que tu puisses ressembler à mon fils, eh bien voilà, j'envoie les transvaseurs. Et les transvaseurs arrivent. Hop, il prend toi, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, c'est pas possible. Quel péché j'ai commis? Il faut jamais voir les choses sous cet angle-là. Vous risquez de culpabiliser tout au long de votre vie. Quel péché le Seigneur avait-il fait pour être cloué à la croix? Vous voyez, mes amis, il nous a montré le chemin. N'a-t-il pas dit que celui qui veut me suivre, que celui qui veut marcher derrière moi, fasse quoi? Renonce à lui-même. C'est ça le brisement. Moab, tu dois renoncer au trésor sur lequel tu t'appuies. Moab, tu ne dois pas croire que tu es devenu quelqu'un parce que tu as ceci, tu as cela. Tu dois partir. Tu dois partir en exil. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Nous devons être versés d'un vase dans un autre. Et ceci va durer toute notre vie. Voyez, toute notre vie. Ce processus, cette opération divine, cette expérience-là est bénéfique. Elle est salutaire, elle est bienfaisante à plus d'un titre. En nous amenant de vase en vase, en nous vidant d'un récipient dans un autre, alors que nous marchons avec lui, alors que nous poursuivons notre route avec lui, eh bien le Seigneur va procéder à cette opération de brisement. Il va nous briser, et cela est vital pour nous. Regardez tous les héros de la foi. Nous reviendrons sur le cas de David. Aujourd'hui, nous voulons tous expérimenter ce que David a expérimenté, le chantre d'Israël. Cet homme qui a marqué l'histoire d'Israël encore aujourd'hui. À chaque fois qu'on lit l'Ancien Testament, quand on arrive dans le livre de Samuel et de Rois, on est émerveillé par... J'ai terminé le 1 Samuel, 2 Samuel dans quelques jours là. À chaque fois que je lis la vie de cet homme, je suis émerveillé. À chaque fois, je suis interpellé par la connaissance qu'il avait de la grandeur de Dieu, mais également de la notion de la grâce. Oui, en nous amenant de vase en vase, en nous vidant d'un récipient dans un autre, le Seigneur va permettre, mes amis, à des épreuves de nous briser. Et ceci est important, ceci est vital pour nous. Toute opération, comme vous le savez, de vidange d'un vase dans un autre, est en soi une opération de brisement. Voyez-vous, voyez ? Même pour le liquide qu'on doit verser, le liquide qui est assis confortablement dans un vase, vous voyez, ou dans une cruche, et puis tout d'un coup, on soulève le vase. Et quand on soulève, le liquide commence à bouger, oui ou non? Ben, il n'est pas fait pour ça. Voilà. Il n'est pas, ce liquide n'est pas dans une rivière pour être condamné à couler, il est dans un vase, il est assis confortablement. Et puis on soulève le vase, pendant qu'on bouge le vase, l'intérieur, le liquide qu'il y a dans le vase bouge aussi, et puis on incline le vase. Eh bien, pour le liquide ne sait pas dans quel vase il va atterrir, hein. Donc ça fait mal, oui ou non? Mais c'est seulement à ce prix-là que ce liquide-là peut être, mes amis, débarrassé de la lie. Oui, le brisement. Une vie de gloire en gloire est une vie, mes amis, qui va de brisement en brisement. Et tout ceci au travers des épreuves. Le transvasement, c'est-à-dire ce processus d'être vidé d'un vase dans un autre, mes amis, et nous devons le savoir absolument, est la voie, est le chemin par excellence qui conduit à la ressemblance tous azimuts à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, à Jésus-Christ, le modèle le parfait, gloire au Seigneur. Et donc cette ressemblance passe absolument, inéluctablement, par le brisement. Le brisement. Pour revenir à l'histoire de Moab, eh bien, le mot brisement, le verbe brisement, nous le trouvons 6 fois dans 6 versets. Versets 3 à 4, très rapidement. On nous dit, on dévaste, on brise tout. Moab est brisé. Versets 3 et 4. Ensuite, le verset 5. Ceux qui crient et qui sont brisés. Verset 17. Ce sceptre puissant, il a été brisé. Et son bras est brisé. Verset 25. La force de Moab est abattue. Son bras est brisé. Verset 38. Enfin, parce que j'ai brisé Moab comme un vase dont on ne veut plus. Oui, ce vase qui abrite beaucoup de lits. Ce vase rempli d'orgueil, de suffisance, de morgue. Ce vase rempli d'immoralité. Ce vase rempli de cupidité.
Ce vase rempli de méchanceté, le Seigneur n'en veut plus. Et le sort de ce vase, c'est d'être brisé, afin que ce qui est à l'intérieur soit versé dans un autre vase. Voyez, le brisement. Qu'est-ce que c'est briser? C'est anéantir. Qu'est-ce que c'est briser? C'est affaiblir, c'est accabler, c'est casser quelque chose. Eh oui. Quand nous laissons le Seigneur à l'œuvre en nous, eh bien, il laisse toujours des marques indélébiles. Il y a toujours quelque chose qui se casse en nous. Autrement, nous serons un but de nous-mêmes. Nous serons remplis du moi. Ce moi arrogant, orgueilleux, suffisant, fier, altier, hautain. Mais il faut que quelque chose soit cassé en nous. Il faut que le Seigneur nous débarrasse de notre fierté. Oui, le moi doit être brisé. Et comment le Seigneur procède? Eh bien, les épreuves nous brisent, n'est-ce pas? Eh oui. Quand vous avez tout, quand tout vous sourit, eh bien, la tendance est que vous risquez de croire que vous êtes devenu le centre de la terre. Non, il y en a qu'un qui est appelé à être le centre de tout. Et il est. C'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Alors, pour nous éviter tout cela, il va utiliser les épreuves. Et ces épreuves vont nous briser. Ces épreuves vont nous accabler. Ces épreuves, mes amis, vont casser quelque chose en nous. Et par conséquent, par ces épreuves, par ce brisement, eh bien, le Seigneur va rendre possible les transvasements. Car lorsque tu es debout et que tu as des racines, c'est très difficile, hein. Voyez, vous avez déjà vu ce combat de lutte, hein, où chacun essaye de faire tomber l'autre. Chacun est sur ses assises, sur ses gardes. Et l'autre va tout faire pour soulever son adversaire, mais tant qu'il a les pieds sur le sol, tant qu'il s'appuie là-dessus, eh bien, c'est très difficile. Alors, on va essayer de bouger, de faire décoller une de ses jambes afin de le faire tomber. Il en est de même. Quand nous avons tout, c'est très difficile de réaliser la nécessité d'être transvasé. C'est là que la privation, quelquefois, est indispensable. Lorsqu'on perd tout, on n'a plus rien, eh bien, on ne regarde plus à gauche, à droite. Là, on regarde vers le haut et on réalise que le vrai secours ne peut nous venir que de là-haut. Alléluia. Mes amis, sans brisement, impossible d'avoir une vie qui dégage un parfum de bonne odeur pour Dieu. Nous l'avons chanté. Un parfum pour le Seigneur. Sans le brisement, impossible d'avoir une vie qui soit elle-même le parfum de Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Alléluia. 2 Corinthiens 2:15. J'avais lu le témoignage d'un fils de pasteur. Vous pouvez enlever ça, j'ai déjà lu, hein. Un fils de pasteur avait été appelé au ministère pastoral. Et voilà que ce fils de pasteur, tout en étant pasteur lui-même, passait par des moments très difficiles, connaissait toutes sortes d'ennuis, passait par des épreuves. Alors un jour, il appela son père et lui demanda, il lui dit, mais dis papa, quand est-ce que tous ces ennuis, quand est-ce que toutes ces épreuves, quand est-ce que tous ces problèmes vont cesser? Parce qu'il n'en pouvait plus. Il avait l'impression d'aller d'épreuve en épreuve, de problème en problème. Mais le père de ce jeune pasteur, qui lui-même avait connu des luttes, avait connu des combats, avait rencontré tant d'épreuves tout au long de son ministère, eh bien ce père n'eut pas le courage de répondre à son fils que ce genre d'épreuves, ce genre d'ennuis, ce genre de problèmes allaient le poursuivre tout au long de sa vie. Eh oui, Eh bien, c'est comme ça. Ou alors, nous optons pour le statu quo. Nous refusons tout, mais ça sera pour notre malheur. Ça sera pour notre perdition. Mes amis, le père n'avait pas osé le lui dire, mais il savait que toutes ces difficultés par lesquelles passait son fils, qui était pasteur comme lui, qui s'était lancé dans le ministère, tout cela était donc une sorte de transvasement par lequel son fils passait, afin d'être rendu plus fort par le Seigneur. Mes amis, cette vérité du transvasement, oh là là, tant de choses à dire, c'est pas possible, est aussi valable, non seulement sur le plan personnel en tant que chrétien, mais également sur le plan pour les églises. Ce principe est aussi valable pour les assemblées. L'une des meilleures façons pour une église de rester forte pendant longtemps, ça peut paraître paradoxal, mes amis, ça consiste à affronter l'adversité. Consiste à passer par des moments d'épreuve et à en triompher. C'est le cas de notre église, de votre église là-bas. Ceux qui peut-être ne connaissent pas l'histoire de cette église seront peut-être étonnés. Mais cette église est passée par des moments d'épreuve, des moments d'adversité. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fondé leurs assemblées en faisant partir des gens de la borne. J'étais en Europe, j'étais déjà parti, peut-être à la fin des années 80, au début 90. Le pasteur avait fait venir un autre pasteur pour faire un séminaire ici. Ce pasteur-là ne vivait pas ici, il venait d'un pays d'Afrique, mais il était d'origine congolaise. Mais ce qui est arrivé quelque temps plus tard, quelle ne fut pas la grande surprise pour le pasteur Verneau d'apprendre que cet homme venait de commencer une église avec certains qui avaient des responsabilités ici, des diacres et des anciens. N'est-ce pas une épreuve? Je vous pose la question. C'est une épreuve, hein? C'est une épreuve, hein? Eh oui, c'est une épreuve. Voyez-vous, lorsque le pasteur est décédé, je peux vous assurer que c'était aussi une grande épreuve pour l'Église. On s'est posé des questions concernant le devenir de cette assemblée. C'était une grande épreuve par laquelle nous sommes passés. Il y a même des gens que j'ai entendus qui disent « Oh, le blanc est mort, c'est fini, cette Église va disparaître. » Mundele akufi, oh, ba congolais, biloko wana iko. Et certaines églises se réjouissaient parce que le vide laissé par le pasteur, hélas, a fait que, qu'il y ait des tensions. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'il y a eu, car vous le savez tous, la nature a horreur du vide. Quand il y a un vide, il faut le combler. Mais dans le cadre de l'Église, il faut laisser le Seigneur combler le vide. Certains se réjouissaient, ça je vous l'ai dit, hein. Ils vous donnaient l'impression de compatir avec « oh là là, oh là là ». Mais ils se réjouissaient quand le dimanche, du haut de la chaise, regarde « ah, il y a 4, 5, 10 de la borne ». Et j'avais même appris, et ça c'est terrible, qu'on envoyait des bus ici pour chercher des gens, les amener dans leurs églises ou je ne sais pas où. N'est-ce pas une grande épreuve? Je ne sais pas si c'est Papa Kabanda qui m'avait dit, Madame Verneau avait vu ça, avait des larmes, de voir des gens qu'on venait de chercher. Quelle était la motivation derrière tout ça? N'était-ce pas de tuer l'Église? Au lieu de se dire, bon, c'était quand même mon Église. Bon, allez, je prends le bus ou je ne sais pas quoi, amener les gens là-bas. Mais les gens partaient, les gens applaudissaient. Bon, ce n'est pas étonnant. Ce sont des épreuves. Mais grâce soit rendue à Dieu. De ce qu'à travers ces épreuves, votre Église est restée forte. Votre Église Votre église est restée croissante. Oh, alléluia. Alors que certains applaudissaient, c'est fini.
Non, avec le Seigneur, ce n'est jamais fini. Gloire au Seigneur. Ce sont des épreuves. Alors, pasteur, si toi qui me suis à la télé, tu passes avec ton église par des moments très difficiles. Il y a toujours des pasteurs qui rôdent. Et ça, moi, j'ai horreur. C'est pourquoi, je l'avais dit, je ne veux plus que quelqu'un s'élève ici de la borne pour commencer une église ici à Kinshasa. Il y en a beaucoup. Allez ailleurs. Alléluia. Allez faire vos preuves ailleurs. C'est beaucoup plus facile de commencer une église à la Cité Verte et d'attirer les gens de la borne. C'est beaucoup plus facile de commencer une église, je ne sais pas, derrière ici, d'attirer les gens de la borne. Voyez-vous, mes amis? Maintenant, si c'est nous qui commençons, il n'y a pas de problème, hein? Oui. Et donc, si vous êtes pasteur et que vous vivez ces choses, je vous encourage. Il faut que votre assemblée passe par le transvasement. Ce n'est pas encore fini. J'ai entendu parler d'une des très grandes églises qui fait la fierté des églises évangéliques en France qui se trouve en Alsace, qui aussi était passée par ce moment de transvasement. À un moment, le pasteur avait reçu une vision. Nous devons aller comme ça. Le comité, les anciens. Non. Vous n'allez pas entraîner l'église dans cette histoire agrandie. C'est quoi ça? Eh bien, mais le pasteur était convaincu, c'était dans la volonté de Dieu. Résultat, eh bien, le comité est parti avec des gens. Ce pasteur-là est resté avec son fils, qui aujourd'hui est pasteur, peut-être qu'il m'entend, je lui envoie mes salutations. Ils se sont battus, mais aujourd'hui, cette église fait la fierté de la France, même de l'Europe. Il y a eu le transvasement. Alors, je vous encourage, nous vivons un temps difficile où il y a une nouvelle discipline qui a vu le jour. C'est l'art qui consiste, et beaucoup se sont spécialisés dans cette discipline-là, c'est l'art qui consiste à aller pêcher dans les aquariums des autres. C'est un art de plus en plus prisé aujourd'hui. Les gens rôdent toujours. Voilà. Il y en a qui étaient ici, pour peu qu'ils ont eu une petite responsabilité, hop, des prophéties sont parties. On n'a jamais su, j'ai jamais su. Quand je demande, oh non, il est parti, il a ouvert une église, je ne sais pas où. Voyez? Et puis, dans leur sillage, ils ont entraîné quelques âmes mal affermies, immatures, 8 ans de preuves, auxquelles nous pouvons être soumis, mais grâce soit rendue à Dieu, l'adversité fait croître. Alléluia! C'est l'adversité qui fait grand. Alléluia, c'est l'adversité, comme l'avait dit un grand prédicateur, un célèbre prédicateur baptiste, pasteur de son état, il annonça un jour qu'il allait prêcher sur ce qui rend les hommes grands. Oh, vous savez, il y a une aspiration dans nos cœurs à devenir grand. Je veux devenir grand dans mon domaine, etc. Alors c'était un sujet très alléchant. Beaucoup sont venus ce soir-là pour entendre cet homme éminent raconter ce qui avait rendu son ministère et sa vie si supérieurs à la normale. Et puis le moment venu, le pasteur se lève, il va derrière la chaire. La première chose, il conseille aux gens de prendre note de ce qu'il allait dire. Comme ça, ils allaient apprendre comment devenir grand. Alors tout le monde était scotché à la bouche du pasteur. Donc ils attendaient, certains attendaient peut-être des formules mystiques pour être grand, d'autres une révélation spéciale, etc. Et puis, de la chair, il s'écria, « Qu'est-ce qui rend les hommes grands ? Qu'est-ce qui rend les hommes grands ?» Alors tout le monde avait les yeux fixés sur lui, les oreilles bien tendues, comme celles des éléphants. Je vais vous le dire, ce sont les épreuves. Voilà ce qui rend l'homme grand, les épreuves. Puis il retourna à sa place et il s'assit. Ce fut là toute sa prédication. Mes amis, dans l'histoire des nations, les hommes qui ont marqué l'histoire de leur pays, de leur nation, de leur communauté, ce sont les gens qui se sont levés aux heures sombres de leur histoire. Des gens qui sont allés à contre-courant. Vous voyez? Et ceux-là ont marqué à tout jamais l'histoire de leur communauté, de leur pays. Pensez à Mandela. Le jour J, comme on disait, D-Day, la tension était à son comble entre les différentes communautés, les blancs, les noirs. Qu'est-ce qui allait se passer? Cet homme que nous avons enfermé pendant de nombreuses années, le voilà maintenant président de l'Afrique du Sud. Que va-t-il décider? Va-t-il se venger? Mais ils avaient oublié la noblesse de cet homme, la grandeur d'esprit de cet homme. Eh bien, c'est tout le contraire. Il y avait l'incertitude, la crainte. Mandela est arrivé. Il apprenait le pardon. Il apprenait la réconciliation. Et aujourd'hui, il n'a fait que 4 ans. Hein. Aujourd'hui, vous allez jeter un Jobourg. Vous avez sa statue partout. Parce qu'il s'est levé à des moments sombres de l'histoire de l'Afrique du Sud. Le pasteur, et je vais terminer par là, le grand pasteur nord-américain Martin Luther King, à un moment où les États-Unis passaient par des moments difficiles, les Noirs n'avaient pas, les Afro-Américains n'avaient pas de droits civiques et tout ça, il s'est levé, a mené un combat pacifique. Il y a laissé sa vie, mais aujourd'hui encore, sa vie parle. Quelques années plus tard, quand il faisait ce combat, pouvait-il s'imaginer qu'un Noir, un jour, serait locataire de la Maison Blanche? Obama est venu, mais il y a eu quelqu'un, il y a eu des gens, à ce moment-là, qui se sont levés, dans cette heure sombre. C'est là que nous voyons la grandeur, lorsque nous passons par des heures sombres. Mes amis, affrontons les défis. Affrontons les défis. C'est de cette manière que nous allons être transvasés d'un vase dans un autre. Et à chaque fois que nous sommes transvasés, nous perdons quelque chose, puisque nous sommes brisés. Il y a toujours quelque chose qui se casse. Et en même temps, il y a quelque chose de neuf qui vient, mes amis, se coller à notre personnalité, à notre caractère. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci de nous aider, Seigneur, à aller de l'avant dans ce processus, dans cette opération, ô Dieu, de transvasement. C'est seulement par ce moyen que tu nous brises, c'est seulement par ce moyen que tu nous amènes à te rassembler et aller de gloire en gloire. Merci pour tout.